VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, il est 16h, temps universel. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Tout de suite, un point complet sur l'actualité. L'ONU renouvelle pour un an le mandat de sa mission en République démocratique du Congo. Les Nations Unies décident de réduire les effectifs militaires de 10% sur fond de vives tensions avec Kinshasa sur le sort de cette mission. Selon une résolution adoptée à l'unanimité ce jeudi, la MONUSCO verra ses effectifs réduits de 2000 hommes. La résolution souligne aussi la nécessité de rendre la MONUSCO plus souple et plus mobile sur le terrain. Selon des diplomates du Conseil de sécurité, Kinshasa réclamait le retrait immédiat de 6000 casques bleus. Je vous rappelle que la MONUSCO est présente depuis 15 ans en République démocratique du Congo et essentiellement déployée dans l'est du pays. C'est l'une des missions les plus importantes et les plus chères déployées par l'ONU. En Centrafrique, plus d'une dizaine d'éleveurs peuls ont été tués, plusieurs autres retenus en otage ces dernières 48 heures dans la préfecture de Nana Gribizi, au centre-nord du pays. Des sources locales attribuent les forfaits à des anti-balaka. Par ailleurs, un puissant chef anti-balaka a été arrêté à Boda, dans le sud du pays. On fait le point tout de suite avec Félix Yepassi Zembrou.
Boukar Abdoul Garba, représentant de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains de la Nana Gribizi, affirme qu'au moins une dizaine d'éleveurs peuls ont péri et une cinquantaine d'autres ont été enlevés au cours d'une attaque menée par des anti-balaka dans quatre villages non loin de Kaka-Bandoro. Le même témoin précise que plusieurs troupeaux de bœufs ont été aussi emportés. Confirmant l'attaque, le préfet de la Nana Gribizi, Gaston Yendemo, a parlé de 9 morts et 4 blessés pris en charge pour l'instant à l'hôpital de Kaka-Bandoro. D'autres sources parlent de représailles aux assauts menés par des éleveurs peuls le week-end dernier dans plusieurs villages sur l'axe Kaka-Bandoro. Le bilan provisoire de ces attaques faisait état d'une vingtaine de morts. Par ailleurs, à Boda, dans le sud du pays, un puissant chef anti-balaka, dénommé Sangolais de son vrai nom Willy Kondji, a été arrêté dans la nuit par la gendarmerie nationale. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, est accusé de graves crimes dans la localité. La population de Boda se réjouit de son arrestation.
Au Tchad, les victimes du régime d'Hissène Habré se félicitent de la condamnation de plusieurs responsables des services de sécurité de l'ex-dictateur hier. Ils ont pour la plupart été condamnés à des peines de perpétuité par la cour criminelle spéciale de N'Djamena. Mais du côté de la défense, on estime que le tribunal est allé trop vite en besogne. En revanche, du côté des victimes, qui avaient porté plainte en l'an 2000, le soulagement et la joie prédominent. Timothée Donangmaï a joint Ousmane Abakar. Il revient sur les sévices endurés sous le régime d'Hissène Habré.
D'abord, je suis prisonnier de guerre. Je suis arrêté à Faye-Largeau en 1983 et puis j'ai mis 4 ans et demi en prison. J'ai subi toutes les sortes de tortures. J'ai vu mes collègues en prison mourir comme les bétails meurent pendant la sécheresse.
Vous avez gagné votre procès. Quel est votre sentiment?
Bon, mon sentiment est le sentiment de joie. Je suis tellement content et je suis ravi. Tout le monde est là, en train de vraiment chanter et parler de notre histoire. Je suis tellement content.
Les sentences ont été rendues. Qu'est-ce que vous attendez d'autre?
Nous attendons maintenant le grand procès de Hissène Habré qui est à Dakar. Et nous attendons aussi que les décisions qui ont été prises par le juge ici au Tchad, ça doit être appliqué.
Quelles sont ces décisions?
Bon, nous attendons ce que nous avons demandé plus longtemps, le monument sur les plaines des morts et puis la musée nationale de la piscine et puis l'indemnisation aussi des victimes.
Ousmane Abakar, victime de la répression sous le régime d'Hissène Habré.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Liberia, selon le ministère de la Santé, le tout premier malade souffrant du virus Ebola au Liberia depuis plus d'un mois, une femme a été placée en quarantaine. Son état est stable, elle réagit favorablement au traitement pour l'instant. Les médias du pays l'ont identifiée comme Ruth Tugbet, qui aurait été en contact étroit avec le public, notamment dans 2 écoles de Monrovia. Mais selon certaines sources, elle aurait plutôt contracté la maladie via son petit ami. Tolbert Niemchwa, ministre adjoint de la Santé pour les services de prévention, a précisé que les autorités s'activaient à identifier les personnes avec qui la patiente aurait été en contact. Des pirates ont pris d'assaut un bateau de pêche iranien au large des côtes somaliennes. Leur première prise en 3 ans, c'est ce qu'affirme aujourd'hui l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, qui se dit inquiet d'une possible résurgence de la piraterie dans cette partie de l'océan Indien. Au large des côtes somaliennes, la fréquence des attaques des pirates a chuté ces dernières années, notamment grâce aux patrouilles déployées par la communauté internationale. Et puis sécurité renforcée en Ouganda ce jeudi, une décision qui fait suite aux menaces d'actes terroristes par les djihadistes somaliens d'Al-Shabaab, mais aussi une mise en garde des États-Unis contre un risque d'attentat imminent à Kampala. On fait le point tout de suite avec Jacques Aristide.
L'ambassade américaine dans la capitale ougandaise a révélé hier avoir obtenu des informations sur des menaces terroristes probables visant des endroits fréquentés par des Occidentaux, incluant des citoyens américains à Kampala, et qu'un attentat pourrait avoir lieu prochainement. Pour le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy Ankunda, l'avertissement est absolument lié à Al-Shabaab, tel que le rapporte l'AFP. Le groupe somalien avait déjà perpétré en 2010 un double attentat qui avait fait près de 80 morts. À Kampala. Les Shebab, d'après lui, semblaient avoir identifié des points vulnérables comme cibles potentielles et la sécurité avait été renforcée en conséquence. Les insurgés somaliens menacent régulièrement d'attaquer l'Ouganda, grand contributeur à la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, qui combat les islamistes aux côtés des fragiles autorités de Mogadiscio.
On reste sur le continent africain, l'armée nigériane qui y retient depuis mardi deux journalistes d'Al Jazeera à Maïdougouri dans le nord-est du pays. Selon la chaîne Qatari, Ahmed Idriss et Ali Moustapha ont été interpellés à leur retour dans leur chambre d'hôtel après avoir couvert des combats entre l'armée nigériane et Boko Haram. On reste dans la région, de l'autre côté de la frontière, la région de Diffa dans l'extrême-est du Niger et sous état d'urgence depuis les attaques imputées aux djihadistes de Boko Haram. On fait le point tout de suite dans la zone avec notre envoyé spécial Idriss Fall qui a pu se rendre côté nigérian de la frontière à Damasak. Idriss Fall, qui s'est également entretenu avec le colonel Moussa Salao Barmou. Il est le commandant de la zone de défense numéro 5 et chef du centre régional des opérations de Diffa.
Au moment où je vous parle, l'armée nigériane n'est pas encore arrivée à Damasak. Malheureusement, nous sommes obligés de rester jusqu'à ce qu'ils viennent prendre le relais. Après, on pourra continuer nos opérations. Mais bon, on ne va pas continuer à attendre indéfiniment aussi là-bas. Nous sommes en train d'envisager la possibilité de continuer notre opération de ratissage le long de la Koumadougou.
Et quelle est la situation au plan sécuritaire à l'intérieur de la région de Diffa? Parce qu'on entend souvent des coups de feu quand même, des séances de tir pas loin de Diffa.
Oui, la situation pour le moment au niveau de Diffa, je peux dire qu'elle est sous contrôle. Si maintenant vous entendez des coups de feu, c'est que souvent nous avons nuitamment des individus qui cherchent à s'infiltrer dans la ville, parce qu'effectivement de plus en plus la situation est intenable pour eux le long donc de la Koumadougou Yobé. Par exemple, nous avons pris des dispositions vraiment pour leur couper au maximum leur voie de ravitaillement. Il y a eu une série d'accrochages, il y a aussi des opérations de bombardement de positions identifiées que nous faisons. Donc de plus en plus, il est devenu intenable pour certains de rester sur leur position. C'est pourquoi donc il y a certains qui, de façon individuelle comme ça, quittent leur position et essaient de s'infiltrer dans la ville où ils ont, pour certains, de la famille, des parents, ainsi de suite.
En parlant d'infiltrer, il y aurait eu de nombreuses arrestations à Diffa et dans la région?
Oui, bien entendu. Depuis le 6 février, le jour où ils nous ont attaqués, nous avons été très entreprenants à démanteler les réseaux de recrutement, de ravitaillement de Boko Haram. À ce titre, il faut noter qu'un état d'urgence a été déclaré dans la région de Diffa. Nous a donné effectivement des pouvoirs de police qui nous ont permis d'aller fouiller les maisons des individus qui étaient suspects, sur lesquels il y avait beaucoup de présomptions. On leur a mis la main dessus. C'est ce qui nous a permis de plus en plus de démanteler ces différents réseaux qui existent dans la ville de Diffa et dans les villes environnantes.
On nous en parlait d'un certain banquier, financier, recruteur qui avait été arrêté ici même à Diffa.
Ce monsieur dont vous parlez, il est présentement dans les mains du service central de lutte contre le terrorisme qui sont effectivement en train de mener des investigations pour voir son degré d'implication dans Boko Haram.
Dans tout cela, est-ce que vous avez perdu beaucoup d'hommes?
Nous avons eu quelques pertes. Je pense que nous avons quelques dizaines, autour de 24-25 pertes en vie humaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et dans le reste du monde, on parle évidemment de l'aviation et de la marine égyptienne qui participent à l'intervention militaire arabe en soutien au président du Yémen face à l'avancée des rebelles chiites houthis. C'est ce qu'indique aujourd'hui la présidence égyptienne dans un communiqué. Enfin, le crash de l'Airbus A320 dans les Alpes françaises. La boîte noire a livré des informations importantes sur ce qui s'est passé dans l'avion au moment du crash. Il semble que le copilote ait actionné volontairement les manœuvres pour effectuer une descente de l'avion. C'est ce qu'indique le procureur de Marseille en charge de cette enquête. We'll be right back. Voilà, ainsi s'achève ce point d'information. Prochain point sur l'actualité dans une heure sur VOA Afrique. Je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info.